Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de votre constante fidélité au programme de Studio Tamani. Sur l'ensemble de nos radios partenaires, il est 8h. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. Voici les titres. Le festival Ogobanyan se poursuit sur les berges du fleuve Niger à Bamako. Aujourd'hui, nous faisons un zoom sur les mets proposés. Sur place, les festivaliers se régalent. Les cartes sans empreinte de l'assurance maladie obligatoire seront bientôt contrôlées. Ces cartes, pour la plupart, sont détenues par des personnes âgées de plus de 70 ans. Cannes Côte d'Ivoire 2023. La Guinée équatoriale termine la phase de poule avec la place de meilleure attaque. Son capitaine Emilio Nsoué est d'ailleurs le meilleur buteur de cette phase avec 5 réalisations. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Mamadi Keita. Mais avant le développement de ces titres, cette annonce, le gouvernement a annoncé hier soir la fin avec effet immédiat de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. L'annonce a été faite par le ministre porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Pour justifier cette décision, le gouvernement évoque notamment le changement de posture de certains groupes armés, mais aussi les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes dont le pays est le chef de file de la médiation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais donc dans le titre. Véritable rendez-vous du donner et du recevoir, le festival Ogobanyan, cet événement culturel, permet aux Maliens et aux étrangers de découvrir la culture et la cuisine d'Ogon. Au-delà de son aspect culturel, il offre des opportunités économiques pour nos entreprises, notamment des restaurateurs. Mohamed Agissa Feitan, un de nos envoyés sur place, nous fait découvrir l'ambiance du côté des restaurants.
Le festival Ogobanyan, c'est aussi des stands dédiés aux restaurants, à l'art culinaire d'Ogon et d'ailleurs. Ici, l'on peut déguster des plats à base de mil, de fonio, mais aussi des boissons traditionnelles. Madame Dara Elisabeth tient ici un restaurant. Pour elle, malgré une affluence timide au départ, les affaires marchent.
Aujourd'hui, ça bouge un peu, mais pas comme pour l'année passée. Sincèrement, l'année passée, à cette heure-là, c'était encore beaucoup mieux.
À 10 mètres de là, Andogolan Dara, un étudiant de guiste, une spécialité d'Ogon, avec ses trois amis. Le mets est bon selon lui.
C'est quand même bon. Les repas aussi, c'est bien préparé et on peut trouver aussi des divers plats aussi. Parce que comme c'est un truc traditionnel, donc on peut avoir des plats de Dogon, que ce soit des soreilles, des pulls, un peu partout.
Juste à côté, une Sénégalaise vend des gîtes traditionnels. Pour elle, ça marche bien et elle se frotte les mains.
Je vois qu'il y a l'ambiance. En regardant la partie restauration, ça marche très bien parce que je vois les plats qui défilent. Et puis, il y a plusieurs sortes de variétés de plats, ce qui m'a beaucoup plu.
Si du côté des bouchers, on vient juste de démarrer, ce revendeur de viande a déjà le sourire aux lèvres.
Le débit, quand même, c'est pas mal. On a très bien débuté hier. On a pu finir avec ce qu'on avait hier. Aujourd'hui, ça se débute très bien. Nous espérons finir bien aussi.
Autre ambiance autour des tables, celle de ces musiciens autour d'une calebasse de l'eau qui trouve bon pour la santé.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
À Banamba, une journée de salubrité a été organisée hier. Le centre de santé de référence, les deux CESCOM de la ville, la préfecture, la mairie, la gendarmerie, la police, le centre d'académie pédagogique, le marché de la ville et toutes les écoles du Cap de Banamba ont été nettoyées. Cette journée de salubrité est une initiative du centre d'animation pédagogique de Banamba. L'objectif est de lutter contre les maladies infectieuses tropicales et transmissibles dans les espaces sanitaires, scolaires et dans les services publics et parapublics. Autre titre de l'actualité, Un contrôle général des cartes de l'assurance maladie obligatoire à mots sans empreinte sera mené à partir du 1er février sur l'ensemble du territoire national. La décision a été prise cette semaine par la Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM. Selon Ibrahim Guindo, chargé de communication et des affaires juridiques à la CANAM, il s'agit d'assurer la vérification et la mise à jour des informations sur les personnes âgées en possession des cartes sans empreinte. Il est réagi au micro de Lalaïcha Wallet Infa.
Quand on a délivré des cartes sans empreinte aux personnes âgées, souvent c'est des personnes qui ont des difficultés de mobilité pour se rendre dans les centres de santé ou bien qui ont des problèmes au niveau des empreintes. Donc on a délivré des cartes sans empreinte aux personnes âgées de plus de 70 ans. On a constaté une très forte consommation au niveau de ces personnes qui détiennent les cartes sans empreinte. D'où le lancement à partir du 1er février 2024 d'une vaste opération de contrôle physique de ces personnes-là. C'est-à-dire que les équipes de la CANAM vont soit appeler les personnes ou bien se rendre physiquement à leur domicile pour voir réellement est-ce que ces personnes-là vivent. La raison pour laquelle on va lancer à partir du 1er février 2024 cette opération.
Les journaux de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
Vous l'aurez compris, c'est le journal de la CAN Coupe d'Afrique des Nations. Le premier tour s'est achevé le mercredi nuit. On note un bilan de 89 buts, 115 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Le point avec Draman Maïga.
Au total, 36 matchs ont été disputés lors de ce premier qui s'est étalé sur 12 jours, soit du 12 au 24 janvier. 89 buts ont été marqués, soit une moyenne de 2,5 buts par match. Emilio Nze sort meilleur buteur avec 5 réalisations et son équipe de la Guinée équatoriale a la meilleure attaque avec 9 buts, suivi du Sénégal 8 buts et du Cap-Vert 7 buts. La pire défense se partage entre le Mozambique, la Gambie et la Guinée-Bissau qui ont chacun encaissé 7 buts. A noter que durant cette phase, les Aigles du Mali ont marqué 3 buts et encaissé 1. Et le meilleur buteur côté malien est Lassina Sinayoko avec 2 réalisations.
Par ailleurs, suite à son altercation avec le capitaine de la RD Congo, Walid Regragui, coach du Maroc, a écopé de 4 matchs de suspension, dont 2 avec sursis. Il doit également payer une amende. Nous en venons donc à une autre rubrique de cette journal dédiée à la CAN qui est l'œil du consultant. Depuis le début de la CAN, les arbitres font l'objet de plusieurs critiques des supporters. Mais selon les analyses du secrétaire général de la FEMAFOOT, Sidi Bekay Magassa, non moins ancien arbitre international, la prestation des arbitres jusqu'à ce jour est salutaire. Il souligne que la VAR rend désormais plus difficile la corruption dans ce domaine. Sidi Bekay Magassa est au micro de Kwan Diarra.
J'ai vu quelques matchs. C'est vrai qu'à ce niveau, je n'ai pas trop d'appréhension par rapport à la prestation des arbitres. En tout cas, tous les matchs que j'ai vus, notamment ceux du Mali, contrairement à ce que certaines personnes pensent, moi je pense qu'il n'y a pas eu de problème au niveau de l'arbitrage. Les arbitres ont été très corrects dans les 3 matchs que j'ai vus du Mali. Donc moi je pense à ce niveau, surtout à la Coupe d'Afrique, aucun arbitre ne prendra la responsabilité de faire volontairement battre quelqu'un ou bien d'aller contre une équipe au risque que tu rentres à la maison et ta carrière est complètement brisée. Donc moi je pense qu'ils ont autant de pression que nous-mêmes, nous publics, nous supporters, mais ça s'arrête là. Ils essaient de faire le mieux qu'ils peuvent.
Allons dans les rues pour voir la ferveur de la Coupe d'Afrique des Nations. Les maillots des Aigles suscitent toujours beaucoup d'engouement chez les Maliens, notamment les plus jeunes, même s'ils sont jugés trop chers pour la majorité. Beaucoup attendent la qualification des Aigles du Mali en quart de finale pour s'en procurer. Ils sont au micro de Lalaïcha Wallet Infa.
En 8e de finale, on doit jouer contre le Burkina Faso. Donc avant ce match-là, on va acheter le maillot pour soutenir le peuple.
J'ai acheté le maillot et je suis fier d'être malien aussi.
J'ai acheté le maillot pour toute ma famille.
Non, j'ai pas d'argent.
depuis le premier jour de la match.
3000. Je n'ai pas acheté le maillot, mais j'aime le Mali, j'aime mon pays.
J'ai acheté le maillot de Côte d'Ivoire.
Pour l'instant, pas encore. Non, mais pour les petits, ils ont déjà leur maillot. Ça, c'est obligé. Avec les enfants, là, si tu n'as pas de maillot, là, c'est un problème.
Moi, hein. J'ai donné la priorité à ma femme et aux enfants.
Non, pas acheté. S'ils ont passé le 8e de finale, là, on va essayer de voir.
Moi, j'ai acheté 3 maillots. 30 000. Mais le Mali tira droit, je vais donner.
Des maillots.
Oui, ça coûte cher.
10 000, 15 000, 30 000.
Oui, hier, 10 000. C'est cher.
On va avoir l'argent.
Moi, quand même, j'ai acheté, mais ma mère a déposé à la maison.
La CAN en une anecdote nous parle d'une histoire tragique. La scène s'est déroulée à la CAN 2010 en Angola. Idrissa Sakou.
Le 8 janvier 2010, deux jours avant le début de la CAN, alors qu'il se rendait en Angola pour la CAN 2010, le car transportant les éperviers du Togo a été mitraillé. Bilan, deux morts et des blessés par balle parmi les joueurs. Selon le témoignage, la scène a duré plus de 20 minutes. L'incident a été revendiqué par les forces de libération de l'État du Cabinda. Après, la ministre aurait expliqué qu'elle visait plutôt les forces armées angolaises chargées d'escorter le bus du Togo. Malgré cet incident, la CAN est maintenue et le gouvernement togolais décide de retirer ses joueurs de la compétition. Les éperviers rentrent au pays traumatisés par l'attaque et avec le regret de ne pas avoir pu défendre les couleurs de leur pays.
Une triste histoire qui s'est déroulée donc en 2010. Ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. Vous pouvez retrouver ce journal ainsi que toutes les productions de Studio Tamani sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store ou encore écouter ce journal en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en Bambara. D'ici là, excellent début de week-end à toutes et à tous. Comment cultiver le goût de la lecture chez les enfants? C'est le sujet de notre magazine Tous les enfants. Il est réalisé par Mamadou Samasekou avec le concours de nos correspondants.
Au second cycle, on reçoit des élèves qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Le gros problème, c'est ça. Ils n'ont pas la volonté aussi.
Cette déclaration vient d'un enseignant d'une école fondamentale de la région de Kita. Issu de la même école, écoutant ses élèves qui se sont exprimés sur la lecture des documents physiques et des livres en ligne.
Notre professeur nous a dit que c'est important qu'on s'initie à la lecture. Je faisais la lecture. C'est le syllabaire que je lisais. Pourquoi tu aimes tant la lecture? Je lis pour être fort. J'aime la lecture, mais je n'ai pas de livre. Es-tu au courant qu'on peut en trouver sur Internet? Je ne suis pas au courant de cela. Est-ce que tu souhaites de l'aide pour t'en procurer?
Des parents d'élèves regrettent que les NTIC ne soient pas profitables aux ruraux. Pour Djougamadi Sissoko, membre de la Fédération des parents d'élèves, c'est le système d'enseignement même qu'il faut revoir.
Téléphone Android au niveau de nos ruraux, c'est pas tous les enfants qui ont des téléphones comme ça. Le système classique que nous on avait quand on était jeune, c'était de façon à apprendre le français phonétiquement et maintenant de faire aussi une bonne lecture tous les jours en classe. Actuellement, les maîtres ne trouvent même pas ça donné à ça. Alors l'enfant n'arrive pas à lire et l'enfant n'a pas quelqu'un à la maison qui peut même le faire lire. Donc il ne s'intéresse vraiment pas du tout à la lecture. Et je vois que c'est le système même qui n'est pas adéquat dans ce sens.
La lecture des livres en elle seule est toute une école, affirme Mohamed Touré. Notre enseignant en psychologie ajoute qu'il est important de faire en sorte que les enfants prennent goût à la lecture.
L'enfant doit être organisé sur le plan matériel que sur le plan intellectuel. Et dans cette organisation du calendrier intellectuel de l'enfant, on peut prévoir par exemple des moments de lecture. Et à partir de la lecture de l'enfant, on peut s'intéresser à comprendre quel est le centre d'intérêt pour l'enfant, quel type de livre intéresse l'enfant. Si on arrive à découvrir cet intérêt, l'intérêt va créer la passion. Une fois que la passion s'installe, l'enfant est bien parti pour ne plus abandonner la lecture et au lieu du debout, ça devient un amour entre l'enfant et la lecture.
Le pédagogue Cédric Loua suggère que pour relever le défi de la lecture des livres par les enfants, en plus de l'État, il faut l'implication de tous.
La première chose à faire est que les adultes d'abord se mettent à lire. Et la deuxième chose, effectivement, les parents et les enseignants doivent mettre les enfants à la lecture. Déjà, le rôle de l'État, ça peut être d'outiller toutes les écoles d'une bibliothèque ou en tout cas d'un centre de documentation équipé en documents physiques et si possible en documents électroniques. Le reste, ça, ce sera le travail des enseignants et des parents.
Nos interlocuteurs indiquent qu'il sera nécessaire de temps en temps songer à organiser des concours de lecture de livres et distinguer les lauréats. Ils espèrent aussi que les états généraux sur l'éducation récemment tenus dans le pays trouveront une réponse à cette inquiétude et tant d'autres soucis de l'école malienne.